chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous si vous nous rejoignez sur les chemins de traverse pour cette émission qui aujourd'hui va nous emmener du côté de la Gartempe, du côté de Saint-Savant en compagnie de notre invité Antoine Séos. Antoine Séos, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, merci, je vais bien.
Merci d'être venu à Chevigny. Facile de se garer à Chevigny samedi matin, peut-être pas.
Ah bah écoutez, j'ai eu le privilège de pouvoir me garer derrière la mairie, donc j'ai pas eu de gros problème pour me garer.
Exactement, à côté de la police municipale d'ailleurs. Vous n'avez pas de souci à la tue pour vous garer, c'est un peu moins de monde peut-être ?
Il y a un petit peu plus de place, oui.
Voilà, puisque vous êtes maire maintenant depuis 2020 de cette belle commune, on en parlera tout à l'heure. Vous n'êtes pas que maire, hein, vous avez été avant cela, vous avez une belle expérience, c'est pour ça d'ailleurs, je tiens à le préciser, que j'ai voulu vous faire venir à l'origine. Je remercie d'ailleurs Isabelle Soulard qui a joué les entremetteuses, entre guillemets. Vous avez été responsable ou fondateur peut-être à des chemins de Saint-Martin ?
Oui, c'est ça. En 2005, en fait, on a créé le Centre culturel européen Saint-Martin de Tours. Et ce centre, en fait, a développé au niveau européen les chemins de Saint-Martin, du lieu de naissance de Saint-Martin en Hongrie jusqu'à Tours, le lieu de l'évêché, en fait, de Saint-Martin et de sa mort.
Combien de kilomètres aujourd'hui de chemin ?
Alors, au niveau de la Touraine-Poitou, il y a 500 kilomètres. Hein, donc, c'est une boucle, hein, en fait, de 500 kilomètres qui part de Poitiers en passant par Angles-sur-Langlin. Et puis, on rentre après dans le département de l'Indre-et-Loire jusqu'à Tours. Et le chemin continue, en fait, jusqu'à Camp de Saint-Martin, près de Saumur, pour revenir, en fait, sur Poitiers. Et donc, on traverse, en fait, par ce parcours de 500 kilomètres, de nombreux villages qui sont liés à l'histoire ou au culte de Saint-Martin. Et au niveau européen, on est à peu près à 5000 kilomètres de parcours européen sur les pas de Saint-Martin, traversant l'Italie, la Slovénie, l'Allemagne, le Luxembourg. Enfin, il y a à peu près une douzaine de pays qui sont impliqués dans ce parcours.
Des chemins principalement pédestres ?
Alors oui, ça a été imaginé comme grand parcours en fait à réaliser à pied, mais nous avons eu il y a quelques années en fait un jeune qui est parti, enfin même d'ailleurs plusieurs qui sont partis avec leur vélo et qui ont fait en Hongrie-France 2500 km à vélo.
Beaucoup alors pèlerins, je sais pas, mais de marcheurs, en tout cas beaucoup de marcheurs sur le secteur.
Alors en fait les chemins se développent, on le voit bien au niveau national et au niveau européen, il y a une redécouverte en fait de l'itinérance et les grands parcours font partie justement de ce renouveau d'itinérance. Le plus connu, c'était celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, hein, c'est celui de Saint-Jacques, mais vous avez aussi un parcours qui s'appelle la Via Francigena qui s'en va jusqu'à Rome. Vous avez donc le chemin de Saint-Martin, vous avez le chemin de Saint-Michel. Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de parcours qui se créent et qui permettent en fait aux gens de partir soit à proximité de chez eux, soit en partant sur des longues distances de plusieurs centaines de kilomètres.
Exactement. On a cette chance hein, dans le pays chauvinois et puis à côté d'avoir donc un circuit là aussi, donc Saint-Martin de Chevigny à Angles-sur-Anglin. On a le chemin de Saint-Jacques hein, qui va d'Angles-sur-Anglin à Saint-Savin et puis ensuite de Saint-Savin à Chevigny, la nouvelle voie verte qui est en train de se mettre en place. Donc une boucle nous aussi. La boucle de Saint-Martin sur la région part donc de Ligugé.
Alors elle part de Poitiers en fait, de la gare de Poitiers. On passe à Saint-Hilaire puisque Hilaire a été le formateur de Saint-Martin. Et puis, on rejoint effectivement la commune de Ligugé, le lieu, en fait, où Saint-Martin a fondé sa première abbaye, la première abbaye d'Occident. Mm-hmm. Et l'histoire raconte qu'en fait, Saint-Martin a été enlevé par les Tourangeaux de son abbaye de Ligugé pour être ramené à Tours et devenir l'évêque de Tours. Et donc le chemin s'appelle le chemin de l'évêque de Tours. C'est un chemin qui fait à peu près 130 km hein, et voilà qui correspond à peu près à une douzaine de jours de marche.
C'est un chemin plus de mémoire qu'historique en fait. Hein. Saint-Martin c'est 316-397 environ. À l'époque les communes n'existaient pas. Ce que je veux dire par là c'est qu'on passe par des communes, on n'est pas certain qu'ils soient passés par là. C'est
oui plus... alors il y a des passages en fait où on est sur la voie romaine. Donc on peut imaginer qu'il ait pu passer évidemment par ces endroits-là. C'est un parcours en fait qui prend en compte aussi bien des lieux historiques. Poitiers, Ligugé sont historiques mais quand vous rentrez par exemple à Tournon-Saint-Martin, Tournon-Saint-Pierre, c'est une des églises fondées par Saint Martin, qui était sur la voie romaine. Donc là, vous êtes bien sur une partie en fait historique. Par contre, vous allez aussi traverser des communes qui portent le nom de Saint Martin. Alors autrefois, il y avait la chapelle Blanche Saint Martin qui existe toujours, mais Saint Martin la Rivière, aujourd'hui Valdivienne.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, qui porte le nom de Saint Martin. Et puis après, vous avez des communes qui ont le culte de Saint Martin, c'est-à-dire des églises ou des chapelles dédiées à Saint Martin. Et ce parcours, en fait, permet de découvrir ces différents lieux.
D'accord. Ma question était plus, en fait, par rapport au dernier venu, un de ces chemins, c'est celui qui va de Cande à Ligugé. C'est vrai qu'on a celui de Chauvigny, de Ligugé ou de Poitiers plutôt, de Poitiers à Tours, qui est en mémoire par rapport à l'enlèvement de Martin à l'époque. Celui de Caen, de Saint-Martin à Ligugé, celui du lieu de décès de Saint-Martin jusqu'à son arrivée à Ligugé, c'est plus une adaptation, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, même si il y a...
Alors oui et non, parce qu'en fait, quand vous êtes à Caen de Saint-Martin, on raconte que à la mort de Saint-Martin, les moines de Ligugé se sont battus le corps avec les moines de Tours, puisque Saint-Martin avait fondé après Ligugé l'abbaye de Marmoutier qui se trouve près de Tours. Chacun voulait récupérer en fait le corps pour développer le pèlerinage en fait au tombeau de Saint-Martin.
D'accord, donc ça a vraiment un sens en fait.
Oui, on peut très bien imaginer effectivement que ce parcours relate aussi la venue des moines de Ligugé sur Caen de Saint-Martin.
D'accord, c'est la question que je me posais. C'est vrai qu'on le voit passer par Mont-sur-Gane, entre autres, et j'ai pensé à une adaptation plus pour faire plaisir à la rigueur à l'ancien président de département qu'autre chose.
Non, en fait, c'était vraiment sur le parcours. On est vraiment dans l'axe qui s'en va sur la direction de Caen.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, justement, à fonder ces parcours, ces itinéraires?
À l'origine, c'était un souhait du département de l'Indre-et-Loire de créer des chemins qui permettent de relater la vie d'un des grands personnages de la Touraine, mais également en fait de pouvoir faire découvrir le patrimoine qui lui est dédié. Et c'est comme ça qu'on a créé en fait le premier parcours. Alors on a essayé de reprendre les éléments de l'histoire de Saint-Martin avec donc le premier épisode Ligugé-Tours avec l'enlèvement de Saint-Martin, mais ensuite on a effectivement la mort de Saint-Martin, mais on avait aussi les voyages de Saint-Martin auparavant dans toute la Gaule avec le chemin de Trèves en fait qui a été créé à cette occasion-là.
Et vous, personnellement, puisqu'il faut quand même avoir l'idée, alors j'ai vu en feuilletant un peu les journaux que vous étiez né du côté de Roubaix, hein, dans une clinique, enfin la clinique Saint-Martin, je crois, j'ai pensé peut-être un signe à ce moment-là.
Ah oui, vous êtes bien au courant.
Ah oui.
Oh, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, d'être né dans une
clinique.
Une clinique Saint-Martin, quoi. Évidemment. Alors c'est aussi un des passages en fait de Saint-Martin Roubaix.
D'accord.
Ça devait être la dernière partie, on va dire, puisqu'il n'est pas allé évidemment côté Belgique, hein, mais par les voies romaines en revenant d'Allemagne, en allant sur Amiens, on peut imaginer effectivement qu'il ait pu passer par Tournai et pas très loin Roubaix.
Donc on rappelle que Martin, donc à l'époque, c'est ce soldat qui a déchiré son manteau, sa cape à Amiens pour la donner à un pauvre.
C'est ça. Et on retrouve cette scène dans la Vallée des Fresques, en particulier dans l'église d'Antigny. On a une représentation en fait de Martin qui coupe son manteau et le donne à un pauvre. Et à côté, on a également une peinture murale du XIIe qui, pour moi en tout cas, pourrait très bien relater la mort de Saint-Martin à Caen de Saint-Martin, avec la présence en fait de très nombreux moines qu'on peut imaginer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moines de Ligugé et moines de Tours.
Martin, donc, qui a marqué l'histoire, l'imaginaire aussi. On parle de l'été de la Saint-Martin, on est encore loin. C'est le mois de septembre, c'est ça?
Alors, l'été de la Saint-Martin, c'est au mois de novembre. Martin meurt le 8 novembre 397 et à Caen de Saint-Martin. Et on remonte, en fait, son corps. Donc, les Tourangeaux enlèvent le corps pendant que les Poitevins sont endormis, comme par hasard. Et on pose le corps sur un bateau. Et de Caen de Saint-Martin jusqu'à Tours, on remonte la Loire. Et on raconte, en fait, que les bords de Loire refleurissent au passé du convoi mortuaire. C'est ce qu'on appelle en fait l'été de la Saint-Martin, c'est-à-dire le renouveau du printemps au moment de l'entrée dans l'hiver. Vous savez, l'effet inverse, ce sont les saints de glace, c'est-à-dire c'est le renouveau du mauvais temps alors qu'on rentre dans le printemps et l'été.
D'accord. Saint-Martin qui a vu les honneurs, on va dire, du pape, hein, c'était Jean-Paul II, je crois, qui était venu à Tours.
Alors il est venu en 96, oui, à Tours, et puis le dernier pape, le pape François, avait aussi un intérêt grandissant sur le personnage de Martin, parce qu'en fait, le pape François venant de Buenos Aires, le saint patron de la ville de Buenos Aires, c'est Saint Martin de Tours, San Martín de Tours, comme il le prononce. Et le pape François, quand il recevait les chefs d'État, il leur remettait la médaille en fait de Saint Martin, partageant son manteau, pour montrer en fait que le rôle des chefs d'État, c'est de s'occuper des plus pauvres.
Aucun d'eux n'a eu l'idée de venir à Ligugé un jour. On peut l'espérer peut-être. Hein,
On peut toujours espérer en fait que tous les papes aillent partout, mais c'est vrai que venir dans le Poitou, ça peut être aussi un beau prétexte de voyage.
Hein. Exactement, d'autant qu'on a une congrégation d'ailleurs que j'apprécie énormément, c'est celle des Filles de la Croix à l'Appui, qui est une congrégation de droit papal directement, et qui il y a quelques années avait reçu Monseigneur Sarah, donc qui était numéro 4 je crois au niveau du Vatican, donc on peut espérer qu'un jour peut-être un pape vienne dans le secteur du Poitou. Vous n'êtes pas que fondateur des chemins de Saint-Martin, vous avez aussi une activité en tant qu'élu aujourd'hui. Vous êtes revenu dans la région pour des raisons familiales, pour
C'était surtout le fait de revenir en fait sur des lieux qui sont des lieux familiaux effectivement, et ça me faisait plaisir de pouvoir reprendre une propriété à Latus-Saint-Rémy.
Voilà, une belle commune, Latus-Saint-Rémy, dont vous êtes maire depuis 2020.
C'est ça, sur le dernier mandat en fait.
Exactement. Question qui fâche, question qui tue, 2026
Je ne suis pas encore engagé, en fait, sur la réflexion de la prochaine élection.
On a encore un peu de temps par rapport à ça, c'est vrai. Une belle commune. Alors, c'est vrai que j'aime bien en parler de temps en temps, c'est des communes du sud de Vienne, hein, qui est parfois un peu massacrée par les promoteurs. J'ai vu vous engager, hein, contre les éoliennes, peut-être pas toutes, mais une grande partie, hein, des éoliennes sur le secteur, c'est vrai qu'il y en a énormément.
C'était un des premiers combats, effectivement, et ça le reste, bien évidemment. Il y a un risque, hein, la Gartempe, en fait, est classée, et aujourd'hui, la commune de Latus-Saint-Rémy risque d'être encerclée de 49 éoliennes, si elles sont toutes réalisées, construites, et donc on s'est engagé, en fait, à tout faire pour empêcher, en fait, la propagation de ces éoliennes, ce qui était un combat long et très coûteux.
Exactement, on l'a vu d'ailleurs nous aussi, hein, du côté de Chauvigny, il y a quelques années, avec la Bussière, hein, où des éoliennes devaient être installées. On a cette chance, nous, d'avoir un site classé au patrimoine mondial, et puis bientôt, donc, ce triangle d'or mis en valeur par le département, peut-être que ça nous protégera de ce côté-là. Beaucoup d'éoliennes, donc, du côté de Latus-Saint-Rémy, du côté de Plaisance aussi, puisque vous avez des origines du côté de Plaisance. Pas que, hein, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes notamment au niveau des portes d'entrée de la Gartempe dans la Vienne.
Alors, c'est vrai que la Gartempe rentre en fait par Latus-Saint-Rémy sur le département de la Vienne, ressort du côté de la Roche-Posay.
C'est ça. Ouais.
Et on a, côté de la Gartempe, dans toute sa longueur, c'est 204 km, avec une partie effectivement très jolie sur la commune de Latus-Saint-Rémy, avec le Roc d'Enfer.
Qui attire énormément de monde d'ailleurs.
Oui, c'est ce qui a d'ailleurs fait la renommée de la commune, hein, ça c'est très clair. Que on connaît la commune de Latus-Saint-Rémy par le CPA de Latus, ouais. Et donc tous les enfants qui sont venus en fait en camp durant quelques jours, et les parents les accompagnant forcément ont retenu en tout cas les lieux superbes des bords de Gartempe.
Exactement, avec ces toiles de tente, hein, du CPA de Latus. Mon fils en a fait partie d'ailleurs pendant quelques années. C'est plus difficile aujourd'hui, il a 15 ans, vous me direz, il pense plus à autre chose, mais c'est vrai que c'est une très très belle commune. Il y a aussi un Terra Ventura d'ailleurs là-bas, j'y suis allé moi faire un parcours Terra Ventura, beaucoup beaucoup de choses, puis se baigner.
Oui, alors se baigner, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, en tout cas si vous échangez avec le maire. Par contre, effectivement, on a tous, nous, appris il y a quelques années à nager dans la Gartempe, que ce soit à Latus-Saint-Rémy ou à d'autres endroits. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est toujours ces problèmes de pollution, en fait, de l'eau, avec une réglementation qui est souvent assez lourde. Et il faut travailler sur la qualité de l'eau, mais la qualité de l'eau, en fait, n'est pas forcément celle de notre secteur. Ça vient souvent en fait en amont.
Oui, c'est ça.
Et
le
problème est beaucoup plus compliqué à régler pour le moment avec le département de la Haute-Vienne, parce que ça suppose évidemment des investissements importants sur les villes qui sont situées proches de la Gartempe, et malheureusement on subit nous les conséquences sur une pollution légère, mais au niveau administratif suffisamment notée pour empêcher une baignade entre guillemets pour le moment.
C'est ça, donc une rivière qui arrive donc de la Haute-Vienne, mais qui prend source au plateau des Mille Vaches, au milieu de la Creuse.
C'est ça. dans la Creuse et qui se jette dans la Creuse.
Exactement, oui. Au niveau de cette rivière, beaucoup de choses. Elle est assez tumultueuse. Alors l'hiver peut-être plus que l'été, c'est certain, même un peu dangereuse. Vous avez les mêmes soucis que Montmorillon, que Saint-Savin ou autre au niveau des inondations?
Alors c'est un petit peu différent puisque évidemment là on est en amont de Montmorillon et donc quand l'eau monte chez nous, en fait, elle concerne à peu près une quinzaine d'habitations. Et on retrouve en particulier des moulins, donc l'inondation avec les moulins, c'est quand même quelque chose qui est qui fait partie un peu des habitudes lorsque l'eau monte. Par contre, évidemment, on peut être aussi un lieu d'alerte. C'est là où ça peut être intéressant dans la collaboration avec les autres communes de pouvoir avoir des repères de niveau d'eau qui permettraient de pouvoir alerter. Parce qu'en fait, forcément, l'eau était déjà très haute avant d'arriver à Montmorillon. Simplement, nous, on s'y attendait pas non plus. Hein. C'était une surprise le matin. Mm-hmm. Et les conséquences sont évidemment plus importantes dans les villes où l'eau peut se diffuser. Bon, ça a été la même chose après hein, dans les autres communes, comme Saint-Savin en particulier, Saint-Germain, ouais. Avec l'eau qui monte. Et ce qui est d'ailleurs à l'origine de notre conférence promenade autour de l'eau. Mais on verra ça tout à l'heure.
Exactement, tout à fait. C'est vrai que au niveau de cette eau, vous avez un goulot d'étranglement, je dirais, du côté de la Thue, avec ces rochers qui sont là-bas. Ça doit être impressionnant, hein, l'hiver, lorsque l'eau monte. Alors là, quand on y va l'été, c'est vrai qu'on a envie de faire trempette, forcément, avec les enfants. Ça doit être beaucoup plus compliqué à ce moment-là, quoi.
Alors, c'est aussi ce qui fait la particularité de la Thue, c'est ces rochers de granit avec... Faut rappeler que la Thue Saint-Rémy est capitale régionale du kayak. Donc, voilà, ceci explique cela. Alors, après, impressionnant, c'est toujours impressionnant de regarder l'eau monter, mais je pense que quand on est au niveau de Montmorillon, hein, j'ai vu, c'est vrai que les images étaient aussi un peu choquantes d'une certaine manière, avec ces voitures qui se retrouvaient au milieu de l'eau, et puis c'est toutes ces personnes qui ont essayé de faire le maximum pour avancer et faire reculer l'eau. Le plus possible.
Exactement. Beaucoup de choses à faire au niveau de la pollution de l'eau, vous le disiez, sur la Gartempe, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau de la commune elle-même, beaucoup de choses encore à faire, à prévoir, beaucoup de projets peut-être. Sans parler d'élection, hein, juste pour les
Non, une commune, c'est effectivement toujours des tas de projets sur tous les environnements. Et en fait, on n'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on a fini un dossier, on repart sur un autre. Actuellement, on est sur l'entrée de communes, en fait, qui a été réalisée. Sur la partie route de Montmorillon sur la Thue. Ça, c'était un des gros dossiers effectivement de la municipalité. On travaille toujours cette notion d'eau justement avec la pollution. Notre idée est quand même malgré tout de pouvoir réouvrir rapidement les bords de la Gartempe et la plage de la Voulzie en particulier. Après, on a, vous l'avez indiqué tout à l'heure, toujours les problèmes d'éolien. Et actuellement, on a des dossiers qui sont
en étude,
avec des risques, hein, et donc il faut se défendre.
Beaucoup de choses, on va le voir tout à l'heure. Vous êtes aussi vice-président la communauté de communes de Vienne-Gartempe. On en parlera tout à l'heure, vous êtes notamment au niveau du patrimoine, ce qui nous permet tranquillement d'aller jusqu'à l'abbaye de Saint-Savin. On va se faire une petite pause musicale, tiens, on revient tout de suite après, avec On a mangé le soleil, c'est Céphas qui nous chante ça, et on revient dans un instant.
Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil. On a mangé les étoiles. On a mangé le ciel. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. Un chien, comme l'année dernière, ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert, Je goûte au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tard, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. La 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 la, 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 la la la. J'ai croqué la vie, avalé les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse, hein, si vous nous rejoignez pour cette émission, avec Antoine Sélos, qui est maire de Latus Arémy, mais pas que, qui est aussi fondateur des chemins de Saint-Martin, on en parlait tout à l'heure, qui est aussi vice-président de la communauté de communes. Un travail prenant, je suppose, vous vous occupez du patrimoine, hein.
En tout cas, un travail très intéressant, puisque évidemment, ça touche au patrimoine. Et donc, on a une richesse assez extraordinaire sur notre secteur. Et l'idée de pouvoir valoriser en fait ce patrimoine. On a la chance d'avoir le programme Pays d'art et d'histoire au sein de la communauté de communes, avec une équipe très dynamique et très professionnelle, ce qui permet de bien valoriser en fait ce patrimoine. Et j'accompagne en fait le personnel sur le développement du programme.
Combien de communes sur la communauté de communes?
Alors au niveau de la communauté de communes, il y a 55 communes qui sont intégrées.
C'est assez large, hein, ça va de Montmorillon, même un peu plus vers la Trimouille, jusqu'à Husson du Poitou.
Oui, à peu près, et puis on couvre une très grande partie en fait du département. On pourrait presque imaginer un quart du département avec la communauté de communes.
Ouais, c'est ça. On se plaint souvent de Poitiers, de Grand Poitiers, avec ses 70 kilomètres entre l'Appuy et Rouillé ou Lusignan. C'est vrai que vous n'êtes pas loin quand même d'avoir la même chose.
Oui, alors peut-être que par le patrimoine, on est sur un environnement qui est plutôt assez agréable et qui unit un petit peu tout le monde. Donc, je pense que cette problématique ne se pose pas tellement sur mon secteur à moi.
Non. Tout à fait, ça se pose par contre sur celui de Grand Poitiers. C'est pour ça que j'ai eu Florent Jardin il y a quelques temps ici à la radio et je lui en parlais de bus du patrimoine. Pourquoi pas, justement, on parle de patrimoine. On parle des journées du patrimoine qui se tiendront donc en septembre, de créer un bus du patrimoine qui permettrait d'emmener les gens de l'Appuy à Poitiers, de Poitiers à l'Appuy et de Poitiers à Lusignan. Donc un circuit juste pour cette journée. Alors je ne sais pas si elle nous écoute, hein, elle est sur Poitiers, mais sait-on jamais. On peut toujours espérer que ça se produise un jour. Peut-être que les bus du patrimoine seraient aussi une bonne idée du côté de Montmorillon.
Alors nous, on est aussi sur un concept qu'on appelle de gare à gare.
Ouais.
Qui l'objectif en fait, c'est de donner la possibilité aux gens d'arriver par le train dans une gare qui peut être par exemple la gare de Lussac-les-Châteaux ou la gare de Montmorillon ou celle de Latus-Saint-Rémy ou même celle du Dorat, et vous partez avec votre sac à dos ou votre vélo pour rejoindre la gare suivante.
Valence à Poitou ne fait pas partie de la communauté, c'est civrésien peut-être. Je vous dis ça parce que j'ai vu une très bonne idée aussi sur Facebook il y a quelques jours. C'était des triporteurs pour les personnes âgées. Vous louez un triporteur et vous emmenez les personnes âgées visiter et découvrir le patrimoine. Ça pourrait être une idée. Alors peut-être pas à Latus Saint-Rémy, hein, vu le côté escarpé un peu du patrimoine, mais...
On dit pour rigoler et pour rappeler que la commune de Latus Saint-Rémy, c'est en fait grand comme Paris. Paris fait 105 km², la Tuscany fait 98 km². Donc voilà, ça permet de remettre un peu l'environnement de notre commune.
Exactement. Ne dites pas aux Parisiens, est-ce qu'ils sont capables de venir bientôt dans le secteur ? On peut l'espérer, remarquez.
On a un petit peu moins de monde, mais on a plus de moutons.
Vous avez des campings ? Vous avez un camping sur la...
Il y avait autrefois un camping, en fait, qui était au niveau du bourg de la Tue.
D'accord. Aujourd'hui, c'est le CPA, donc qui peut accueillir les personnes qui souhaitent...
Voilà, le CPA a des possibilités, mais c'est avant tout, en fait, les jeunes, pour le moment, qui utilisent le lieu en très grande majorité.
Voilà, et qui l'utilisent très, très très bien, on peut le dire. Ça doit commencer, non ? La saison commence hein, pour
oh oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est pratiquement toute l'année.
Un cadre très agréable. On parlait de patrimoine. On va parler un peu du patrimoine, on va se rapprocher tranquillement de Saint-Savin, on parlait du patrimoine. Montmorillon. Montmorillon, c'est vrai que c'est une belle commune, on peut le dire, avec quelques soucis, on va dire, au niveau du développement de la cité de l'écrit, mais ça ne fait pas partie, certainement, de vos prérogatives. Par contre, il y a un ancien hôpital, je crois.
Oui, alors là, c'est la communauté de communes qui a racheté l'ancien hôpital. L'idée est de pouvoir y installer dans quelques temps le SIAP, qui est le centre d'interprétation du patrimoine au niveau en fait des bâtiments, et puis un lieu également qui soit dédié à la musique et à la danse. Voilà, un conservatoire au niveau de ce lieu qui est absolument superbe. Et nous, ça rentre dans les obligations pour le SIAP de l'action qui est menée avec le ministère de la Culture et le développement du programme Pays d'Art et d'Histoire. Donc c'est un lieu qui permettra de faire la promotion de notre secteur, de tout notre secteur, sur patrimoine naturel, patrimoine immatériel, patrimoine
un lieu d'exposition,
au sens très large.
Suppose.
Lieu d'exposition, tout à fait, lieu de conférence. Hein, et c'est aussi, à mon avis, un bel outil pour attirer aussi les touristes en haut de Montmorillon, ouais. Au niveau donc de Notre-Dame, qu'on espère qu'il pourra réouvrir bientôt.
C'est ambitieux, parce qu'accueillir, enfin espérer faire venir les touristes avec un lieu d'exposition, on l'a vu pour l'historial du Poitou, je ne suis pas sûr que ce soit une grande, grande...
Alors, ce n'est pas les faire venir avec un lieu d'exposition, c'est d'avoir un lieu, en fait, qui permette d'animer aussi tout le haut de ville, hein, et qui donne aussi un intérêt de visite.
De faire découvrir voilà, le patrimoine qui est assez riche hein, du côté de Montmorillon, et pas que, on a dans les environs, on a l'abbaye, le priori, l'ancien priori de Ville-Salem.
Ville-Salem, tout à fait, oui.
Tout à fait, qui est magnifique, un ancien priori fontevriste, hein, qui fait partie, je crois, des cinq premiers hein, voilà, qui a été construit.
Et qui est accompagné, entre autres, par la communauté de communes, qui est gérée par le ministère de la Culture, mais accompagné avec des animations qui sont organisées oui. Par le Pays d'Art et d'Histoire.
Avec des scénographies, hein, on le voit régulièrement, il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Au niveau du patrimoine, on a aussi la Villa Lépiné, hein, qui est là-bas sur du côté de Journay. Beaucoup, beaucoup de choses. Des travaux, tiens, on avait des travaux du côté de Montmorillon, à l'ancien octogone, enfin l'octogone plutôt.
Alors ça dépend de la Maison Dieu, ouais. Et c'est un programme actuellement qui a été mis en place avec le département, la commune et puis la communauté de communes qui ont confié en fait le bâtiment à une structure qui pour le moment est en train de la rendre très visible, on va dire, dans sa globalité pour trouver des investisseurs qui pourraient investir sur ce projet.
C'est ça, on espère toujours la création d'un restaurant, sait-on jamais.
Voilà, avec la valorisation, bien évidemment, à l'intérieur, on a l'octogone hein, et puis la chapelle. Les deux lieux font partie, en fait, de la Vallée des Fresques.
Exactement, Vallée des Fresques qui part de Saugé, qui nous emmène direction Saint-Savin.
Qui part de Saugé en direction de Saint-Savin ou en sens inverse.
Oh, voilà, ça dépend dans le sens du courant, dans le sens du canoë, vaut mieux partir à mon avis de Saugé.
Alors, pour le canoë, ça marche bien. Après, au niveau touristique, c'est vrai que Saint-Savin est considéré aussi un peu comme la porte d'entrée. Oui, donc, c'est aussi la porte d'entrée de la vallée des Fresques, le long de la Gartempe.
Si on veut justement partir du côté de la Vallée des Fresques, à partir de Saint-Savin, vous êtes donc chargé de la promotion du site, chargé peut-être de l'accompagnement des touristes, comment ça se passe ?
Non, du développement en fait. L'idée est de pouvoir essayer de redonner un peu d'image à la Vallée des Fresques et de valoriser par des initiatives qui peuvent être culturelles en particulier, touristiques, voilà, patrimoniales, à partir donc de l'abbaye Saint-Savin. On va continuer le parcours avec Saint-Germain, Antigny, Jouet, Montmorillon et Saugé. On a deux types de parcours. On a le parcours de roman et puis le parcours 19e siècle.
Voilà, puis on a des fresques qui s'étendent sur plusieurs siècles. L'origine justement de ces fresques, on est un peu étonné. Alors l'abbaye de Saint-Savin, on le comprend, il y avait des moines. Qui a pu décider de concentrer comme ça des fresques tout au long de...
C'était, vous savez, la Bible ouverte en fait pour la population, et donc beaucoup d'églises en fait avaient des peintures murales qui permettaient de sensibiliser les gens, une sorte de catéchisme de l'image en fait. Donc c'est pas très surprenant de retrouver justement beaucoup de peintures.
On peut espérer peut-être des peintures aussi le long du côté de Nalier, en descendant plus loin, Nalier, Saint-Pierre de Maillet,
sûrement, Bussière, sûrement. Mais là déjà vous reprenez Antigny, il y a un projet de restauration du chœur, et peut-être qu'on va retrouver là encore des peintures murales qui vont compléter celles qu'on peut déjà voir.
D'accord, avec des fresques qui ont été mises à mal, on peut dire, notamment du côté de Saint-Germain cet hiver. Hein.
Alors, avec les fresques, oui, alors c'est plus par l'humidité, oui, en fait, avec l'inondation, qui fait que, évidemment, les bâtiments souffrent de l'entrée de l'eau, et souvent, ces églises ne sont pas toujours ouvertes, et donc l'humidité, en fait, persiste.
C'est vrai que c'est assez compliqué, elles appartiennent aux municipalités. Alors on le voit notamment pour Saint-Savin, qui appartient à l'abbaye de Saint-Savin, qui appartient à la commune. C'est pas toujours évident d'entretenir un tel patrimoine, en fait. Hein.
C'est tout le souci, en fait, des communes, hein, que ce soit effectivement pour Saint-Savin ou Saint-Germain et d'autres lieux. En étant propriétaire, il y a toujours beaucoup de coûts, beaucoup de charges, et il faut trouver le juste milieu pour préserver son patrimoine. Maintenant, si l'église est un peu isolée, on a tendance à la fermer pour éviter le vol. Il se trouve que là, ces bâtiments sont proches de la rivière, et donc on subit la crue. Et les conséquences, on les voit déjà aujourd'hui avec quelques peintures qui sont un peu touchées par l'humidité.
Au niveau du tourisme, justement, comment ça se passe?
Alors, il y a des choses intéressantes. Et on est en train de regarder des systèmes d'ouverture de portes. Alors, il y a celles qui sont enclenchées avec une minuterie. Et puis, il y a une expérimentation d'ouverture de portes avec le téléphone portable qui permettrait peut-être d'apporter une solution pour un grand nombre de bâtiments. En sachant que, en provoquant l'ouverture de la porte, on sait aussi qui l'a provoquée, puisque les informations auront été prises pour rentrer sur l'application. Mm-hmm. Et c'est peut-être une solution d'avenir, parce que dans l'itinérance, c'est clair que c'est très frustrant de se retrouver devant les monuments fermés. Alors vous avez, et on travaille également dessus, les projets de panneaux à l'extérieur, hein, qui permettent de donner des informations à l'intérieur. Mm-hmm. Alors à partir de là, vous pouvez flasher avec votre téléphone et récupérer beaucoup plus d'images sur l'intérieur de l'église. Maintenant, les gens, et à juste titre, ont envie de rentrer à l'intérieur, donc il faudra trouver des solutions fiables, et c'est un peu l'objectif aussi de ce qu'on essaye de mettre en place.
Eh bien, écoutez, on va reparler juste après une pause musicale avec Julien Doré qui nous chante Nous. On continuera tranquillement donc sur la veille des fresques, et puis sur ce qui nous amène aujourd'hui à une balade du côté de la Gartempe pour cet après-midi. On se retrouve tout de suite après Julien Doré.
Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'égo, et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est temps. Nous on s'en fout de vous.
voir si la lune est claire. De quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre.
Nous sommes toujours sur RLC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Antoine Sellos, qui est maire de Latus-Saint-Rémy, mais pas que. Nous avons parlé avec lui des chemins de Saint-Martin. Nous parlions à l'instant de la vallée des fresques, une vallée des fresques, donc beaucoup d'animation à venir. Alors, je parlais tout à l'heure dans mon quart d'heure point de vin de Randovienne. Randovienne, c'est une épreuve de canoë-kayak qui va se tenir entre Lussac-les-Châteaux et puis Chauvigny le 15 juin prochain. Une épreuve qui nous permet de descendre tranquillement la Vienne et puis d'admirer entre guillemets les paysages, parce qu'au niveau du patrimoine il y a très peu de choses. Alors c'est vrai qu'on a la centrale de Civaux et on a l'église de Saint-Pierre-les-Églises. Au niveau de la Gartempe, beaucoup de choses à voir entre Saugeais et Saint-Savin.
Oui, l'idée c'est aussi de découvrir en fait ces lieux par le biais du kayak, et donc descente en kayak de Saugeais jusqu'à Saint-Savin par étape. Là, l'idée, en fait, ce sera de lancer tous les mois un parcours à un moment différent de la journée. C'est-à-dire qu'on va commencer sur la première étape, on sera au petit déjeuner. Mm-hmm. Sur la deuxième étape, un mois après, on sera sur la partie du repas déjeuner, campagnard. Mm-hmm. Sur la troisième partie, le mois suivant, on sera sur l'après-midi avec le goûter. Et on finira avec l'apéritif qui sera organisé au niveau de Saint-Germain.
Écoutez, j'essaierai de venir le quatrième mois.
Oui, voilà, il faut venir pour l'apéritif, mais voilà. Il y aura aussi l'apéritif à midi. Donc, vous pouvez faire toutes les épreuves. Et ça permet effectivement de découvrir aussi bien le patrimoine naturel que le patrimoine de la vallée des fresques.
C'est ça, puisque vous disiez que la vallée de la Gartempe était classée en fait. Hein,
Elle est inscrite, oui, sur des portions en fait, et ouais. Ça permettra aussi de parler de toutes ces inscriptions, de la manière dont on veut avancer par rapport à la rivière et à son classement. Il y a une forte volonté aujourd'hui de reconnaître la totalité en fait de la Gartempe en classé inscrit.
Ça ne doit pas être évident à faire
ça sera long, hein, ça oui, sera long, mais c'est intéressant qu'il y ait cette volonté de l'État d'appuyer et de préserver en fait la rivière.
Alors, je la connais pas, la Gartempe, en dehors de la Vienne. On a un très beau patrimoine sur la Vienne. Hein. C'est la même chose à peu près quand on passe la Haute-Vienne. Les paysages sont les mêmes.
Je pense qu'à chaque endroit traversé, les paysages évoluent au fur et à mesure. On a la chance déjà d'avoir un GR qui longe la Gartempe et qui finalement, encore aujourd'hui, n'est pas tellement utilisé ou tellement connu, alors qu'en fait, il est au plus proche de la Gartempe sur un grand nombre de portions du parcours. Et donc, on peut partir de Angle-sur-Langlin, ouais, arriver pratiquement jusqu'à Saugeais, Et donc, on a la totalité de la vallée des Fresques à pied.
Exactement, une belle rivière qui va donc pour la Vienne de Sourgé, on le dit, enfin plutôt de la Tussin-Rémy, des Portes d'Enfer, jusqu'à La Roche-Posay. Ça peut être une occasion aussi d'aller à La Roche-Posay, d'aller visiter cette commune qui est aussi magnifique. Beaucoup de choses. Vous avez pas mal d'activités, on peut le dire. Vous aurez notamment une belle activité cet après-midi, c'est une balade autour de la Gartempe.
Oui, l'idée, justement, dans le cadre des animations, c'est de proposer aussi des visites thématiques. On parlait tout à l'heure des problèmes d'inondation, on parlait de Saint-Germain. Évidemment, l'année dernière, il y a un an, la montée des eaux a fait que des monuments, ça a été aussi le cas pour Saint-Savin, avec l'abbatiale qui a pris de l'eau au niveau de la crypte.
Qui est toujours fermée d'ailleurs, je crois, non ?
Alors, la crypte est de toute manière fermée, mais pour d'autres raisons.
On pouvait descendre les escaliers, mais on s'arrêtait en bas des escaliers, je crois.
Alors,
aussi.
On peut voir, effectivement, en allumant les lumières, on peut voir l'intérieur de la crypte, mais pour le moment, on ne peut pas rentrer à l'intérieur ou de manière exceptionnelle pour découvrir justement le supplice de Saint-Germain et de Saint-Savin, de Saint-Cyprien et Saint-Savin. Voilà, donc ces lieux-là a été touché également par l'inondation et puis très fortement au niveau de l'église de Saint-Germain. Bientôt, là, le 5 juin, nous serons dans la journée de l'environnement. Et l'idée était de saisir, en fait, cette journée de l'environnement et d'organiser, quelques jours auparavant, une promenade. Et on a choisi le thème de l'eau. Et ce thème est vraiment très intéressant parce qu'il nous permet déjà de partir de Saint-Savin avec l'Arche de Noé et le déluge. Et finalement, en fait, aujourd'hui, on sera peut-être soumis de plus en plus à des inondations importantes, mais aussi à des grandes sécheresses dues au changement climatique. Et faire ce parcours de 3 km à pied avec un spécialiste de l'eau qui va nous sensibiliser sur l'eau avant et après, ça sera forcément une rencontre et un échange très intéressant à partir d'éléments aussi comme l'histoire de l'importance de l'eau au niveau des abbayes. Donc on pourra ramener aussi toutes ces informations-là.
Voilà, la balade se fait avec un professeur de l'université de Poitiers, hein, Bernard Legube. Vous l'avez croisé dans vos...
Alors, je l'ai croisé à la Tussin-Rémy, justement. Ouais. Il donnait une conférence aussi autour de l'eau. Et j'avais trouvé très intéressant le fait, justement, de se promener avec des spécialistes qui nous sensibilisent voilà, à l'occasion d'une visite.
Exactement,
et
oui.
C'est comme ça que sont nées les visites thématiques de la vallée des Fresques, où on saisira une à deux fois par mois des dates pour organiser une visite intéressante sur un sujet. Alors, évidemment, par exemple, sur la partie de la fête de Saint-Savin, de Saint-Cyprien, eh bien, on ira se promener sur les pas des deux frères.
D'accord.
Si on est sur la date anniversaire de Saint-Germain d'Auxerre, on va parler plus particulièrement du personnage avec un spécialiste qui viendra parler de qui était Saint-Germain d'Auxerre et pourquoi on a donné cette dédicace à l'église de Saint-Germain. Donc vous voyez, toujours sur ces thématiques-ci, on se rapproche de la fête des morts le 1er novembre, le 2 novembre, pardon. On sera sur une visite sur la mort dans la vallée des Fresques, par ses représentations.
D'accord, beaucoup de choses. Vous faites de la randonnée, je suppose que oui, à côté de ça, à côté de votre activité. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de chemins de randonnée du côté de Saint-Savin, hein, l'avenue Moine notamment, beaucoup de choses à découvrir.
Oui, en fait, c'est la richesse aussi de notre secteur. Et l'idée du gare à gare, c'est justement de valoriser en fait ces parcours et découvrir en fait des lieux qu'on connaît mal.
Ah oui,
avec un thème là encore, et le thème sera la vallée des Fresques. Donc l'idée, c'est que le parcours puisse porter le nom de vallée des Fresques.
D'accord. Avec cet après-midi, donc un parcours qui lui sera beaucoup moins long, on parle de 2-3 km.
Oui, c'est 3 km aller-retour, on traverse le pont et on va en face.
Mais voilà,
ça permet de faire des étapes. À partir du pont, on peut parler de la Gartempe. Enfin, vous voyez, quand on est dans les jardins de l'abbaye, on peut parler de la construction des abbayes romanes et comment les moines utilisaient l'eau au niveau de leurs propres habits, avec la partie historique.
C'est ça, avec la fragilité de cette ressource. Hein, j'écoutais un reportage justement avec Bernard Legube il y a quelques temps sur ici Poitou, qui disait donc deux tiers des eaux de la Vienne étaient polluées en fait. Hein. C'est énorme, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est quand même une ressource importante.
Oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'aborder ces sujets-là, et ça permet de sensibiliser aussi les touristes, les personnes qui viennent pour une visite à la déclinaison en fait de la thématique.
C'est ça. Vous parliez du déluge tout à l'heure, qui est une des fresques, hein, notamment le radeau de la Méduse, n'importe quoi, mais avec l'arche de Noé, donc qui est sur les fresques. La symbolique de l'eau a toujours été importante, hein, au niveau de la religion. On le voit avec Moïse, notamment, hein, sauver les eaux en premier temps, et puis ensuite.
Oui, dès l'Ancien Testament, en fait, on a ces grandes histoires. Vous avez raison, avec la mer Rouge et Moïse,
ça,
et
oui.
Le passage des Hébreux. Cette scène, d'ailleurs, on la retrouve au niveau de l'abbaye. Vous avez évidemment la scène du déluge, hein, qui est emblématique. Enfin, et puis, dans le Nouveau Testament, on retrouve le baptême du Christ, enfin, l'eau changée en vin. Enfin, tous ces thèmes sont évidemment des thèmes très importants au niveau de la religion.
Exactement, avec une eau qui est très importante aussi chez nos voisins de l'Indre. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin certainement que oui, la Brenne avec ses étangs, ses magnifiques étangs.
Le souhait d'ailleurs, c'est de collaborer justement avec aussi la Brenne, essayer d'établir, tout à l'heure vous parliez du triangle d'or,
ouais.
Essayer d'établir des liens très forts entre des villes proches qui ont une histoire commune, qui ont des points communs. C'est clair que entre Angle-sur-Langlin, Saint-Savin, Chauvigny, donc ce fameux triangle, on a des choses à raconter, et les gens peuvent venir visiter de manière assez rapide. En une journée, vous avez fait le tour du
oui,
triangle,
tout à fait, oui.
Vous avez eu l'occasion de pouvoir profiter des différents lieux. Et puis, de manière un peu plus élargie, on peut effectivement aussi aller un tout petit peu plus loin, et la Brenne n'est finalement pas si loin que ça.
On est à une demi-heure de la Brenne.
Et puis on a des lieux comme l'église Saint-Martin de Nohanvic, hein, où on a également des peintures murales assez extraordinaires. Et ce lien entre la vallée des fresques, l'abbaye de Saint-Savin et Nohanvic nous semble en tout cas des choses très intéressantes à développer.
Exactement, oui. Donc avec une Brenne, je le disais, dans l'Indre, beaucoup d'étangs, l'étang de la Gabrière et d'autres encore, où on peut se balader. La symbolique de l'eau, je le disais, dans le secteur, pour nous, c'est la religion. Pour la Brenne, c'est plus la sorcellerie, en fait. Hein. On le voyait à l'époque, ça perdure toujours un tout petit peu. C'est vrai que cette eau, on la retrouve en importance tout au long des siècles. Aujourd'hui, on a l'impression que l'eau n'est plus qu'un moyen de consommation, en fait. On oublie un peu ses vertus, je ne sais pas, mais on oublie un peu son importance. On la retrouve tellement facilement en bouteille.
En tout cas, on a aujourd'hui, ce risque d'avoir une eau polluée de plus en plus, et il est grand temps effectivement de se réveiller, on va dire, et de voir de quelle manière tous ensemble on peut essayer d'obtenir une eau meilleure et dans des conditions rapides. Pour le moment, on est plutôt dans la destruction.
Exactement. On va se faire une dernière pause musicale, tiens. Ensuite, on finira cette émission tranquillement. Il nous reste 13 minutes environ avant de finir l'émission. C'est Adé qui nous chante Tout savoir. On revient tout de suite après.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirai à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore dans mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi ce désaccord un peu maladroit. J'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Y'a jamais de bon moment. T'as si je comprends pas pourquoi je change quelquefois. J'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre, de savoir pourquoi. Ce désaccord un peu maladroit, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir, et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir, et voir dans le noir. Et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir. Et voir dans le noir.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse pour la dernière partie de cette émission. On parlait de la veille de la Gartempe. Antoine Sellos, vous êtes pêcheur.
Ça dépend dans quel sens vous l'entendez.
Mais justement, oui.
Il m'est arrivé, en tout cas, dans ma tendre jeunesse, de pêcher le poisson.
Exactement. Moi, j'ai souhaité le faire à une époque. Mon fils voulait le faire aussi. On s'est mis devant la canne et puis on s'est dit, bon, on attendra un peu et on attend toujours d'y aller. À propos de pêcheurs, justement, et d'importance de l'eau, c'est vrai que pour les moines, hein, alors qu'ils n'ont pas forcément été des grands pêcheurs, c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'eau était très importante. Je le dis notamment par rapport aux moines zémoniales, un fontevriste, hein, sur l'appui, qui ont créé donc des étangs, au XIIe siècle pour l'alimentation. C'est vrai que cette eau a toujours été importante pour la pêche et puis pour autre chose peut-être.
Oui, en fait, les moines avaient d'ailleurs des viviers. Ils construisaient des viviers. Alors, proche de l'eau, proche de la Gartempe, on l'imagine bien, par exemple, au niveau de Saint-Savin. On a le moulin et à côté du moulin, il y avait sûrement le vivier. Le vivier permettait, alors il faut aussi se remémorer le fait que les moines mangeaient très peu de viande. Hein, et on était pratiquement à 200 jours dans l'année sans viande.
Ah, tout de même, ouais.
Donc le poisson était effectivement un moyen de manger maigre, de manière maigre. Et le poisson permettait aussi, lorsqu'on recevait du monde, enfin voilà, d'avoir des plats qui soient adaptés. Mm-hmm. L'eau, ça permettait aussi d'arroser. Et donc il y avait un jardin dans toutes les abbayes, il y avait des jardins et avec tout un système d'irrigation pour pouvoir produire et ensuite pour laver aussi. Uh-huh. Et pour cuisiner. Donc voilà, on voit bien l'importance de l'eau au niveau de l'hygiène. L'eau était essentielle également au niveau de l'abbaye. Donc les fonctions, on ne pouvait pas imaginer une abbaye sans eau en tout cas. Donc ça rentrait dans le cadre du développement de l'abbaye.
Exactement, l'eau courante qui est arrivée très tard sur Saint-Savin, c'est Félix Léon Hédoux, hein, qui avait installé par la suite un réservoir d'eau. Alors, c'était pour son ascenseur, je crois, mais...
Oh non, je pense que par les moines, déjà le système de l'eau fonctionnait bien. Il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Toutes les abbayes ont, en règle générale, été construites à côté de soit d'une rivière, soit d'un plan d'eau, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Le premier, en fait, qui a été celui qui a fondé la première abbaye d'Occident, c'est d'ailleurs Saint-Martin. Et Saint-Martin a demandé à Hilaire de pouvoir avoir un petit regroupement d'hommes à quelques kilomètres de Poitiers. Ça sera donc Ligugé, au bord du Clain.
Au bord du Clain, tout à fait.
Voilà. Ouais. Et on retrouve d'autres endroits, comme par exemple Saint-Cyprien. C'est aussi au bord du Clain, l'abbaye de Saint-Cyprien. L'abbaye de Noyers, c'est au bord du Miosson. Donc l'eau fait vraiment partie intégrante en fait de l'abbaye.
L'importance de l'eau, tout à fait. Hein, je disais tout à l'heure avec les fontevristes ou autres. J'ai toujours été étonné par rapport à ça. C'est l'abbaye de l'Étoile, hein, qui est à l'appui, enfin qui est plutôt sur Archigny d'ailleurs, qui elle par contre n'est pas alimentée par l'eau, tout simplement parce qu'elle était à l'origine, me semble-t-il, du côté de Bonne, hein, du côté de la Vienne, et qu'elle a été est ensuite partie en direction de l'abbaye de l'Étoile. Beaucoup d'abbayes, beaucoup de prieurés. Dans la région, c'est vrai que le secteur s'est pas mal développé de ce côté-là.
Oui, non, alors je pense qu'à l'époque carolingienne, on avait littéralement un grand manteau blanc d'abbayes et d'églises qui se sont construites au fur et à mesure. Et quelles que soient les régions, on avait cette importance-là. On est peut-être plus vigilant sur notre propre secteur.
Tout à fait, oui, plus vigilant. D'ailleurs, ce sera l'occasion cet après-midi d'aller découvrir du patrimoine. Avec la balade que vous allez faire avec Bernard Legube sur le long de la Gartempe. La balade, c'est le long de la Gartempe, c'est aussi au niveau de l'abbaye. Vous allez rentrer un peu dans l'abbaye
Oui, on commence en fait dans les jardins de l'abbaye, puisque c'est là où on peut parler de l'eau et des abbayes romanes. Ensuite, on ira voir l'image la plus connue à l'intérieur de l'abbatiale, qui est celle de l'Arche de Noé,
oui.
Voilà, qui parle du déluge. Hein, et on donnera la parole ensuite à Bernard Legube pour parler de l'eau et des nouveaux déluges, on va dire, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et se rapprocher au fur et à mesure de l'église de Saint-Germain. À l'intérieur, on a entre autres deux représentations de saints. Il y a Sainte Geneviève, qui était la patronne de Paris, mais qui est aussi une sainte qu'on appelle pour éviter les inondations. Et puis on a Saint Germain, qui est lui très lié aux dédicaces, entre autres, de fontaines Saint Germain, mm-hmm. Qui sont des fontaines de guérison. Donc voilà, l'eau a aussi d'autres fonctions.
Exactement.
Et celle de guérir.
D'autres, les fresques de Saint-Germain, pardon, sont magnifiques. Hein, ce trompe-l'œil, c'est moi j'ai eu l'occasion d'y aller pour un mariage. C'est vrai qu'on est impressionné.
Ben, je pense que toute personne qui rentre dans l'église et qui voit effectivement ce trompe-l'œil, qui est en fait une méthode en grisaille, qui donne du relief et qui donne surtout l'impression que ce sont des sculptures vues de loin et de très près. C'est aussi très captivant parce que c'est très esthétique.
Exactement, oui. Le programme de la veille des fresques dans les semaines à venir ?
Alors, le programme, ce sont pratiquement une à deux visites thématiques par mois pendant tout l'été. La possibilité, quatre jours par semaine, de pouvoir visiter soit le matin, soit l'après-midi, un, deux ou trois monuments de la vallée des fresques, mmh. Donc que ce soit Saint-Germain, Jouet ou Antigny. Et puis cette descente de la Gartempe une fois par mois avec un tronçon. Et là, tout le monde est invité évidemment à participer à ces différentes propositions estivales.
Exactement, donc beaucoup de choses à voir dans les semaines à venir sur le secteur. Beaucoup de choses aussi pour notre émission, on va bientôt arriver à la fin. Je vous remercie d'être venu Antoine Sellos pour nous parler de la Gartempe. Je remercie à Isabelle Soulard hein, d'avoir permis cette rencontre. Dans les semaines à venir, nous aurons la semaine prochaine, donc le 7 juin, une émission spéciale où nous parlerons donc des événements qui viendront le 13, 14 et 15 juin. Une petite dernière chose peut-être Antoine Sellos.
Oui, on va avoir également un très beau concert qui sera organisé dans l'abbatiale de Saint-Savin.
Concert baroque, je crois. Hein.
Voilà, c'est ça. Il est prévu le dimanche 15 juin à 18h. Et c'est le concert baroque La Menetou qui donnera l'occasion de pouvoir profiter du son de la musique dans toute sa splendeur à l'intérieur de la abbatiale.
Ah oui.
Et profiter en fait de cette musique qui se diffuse. Et tout le monde est bien évidemment invité à venir écouter ce très beau concert ouvert au public hein, avec un prix, je crois, forfaitaire de 12 € le spectacle.
Pour s'inscrire, pour, je ne sais pas s'il faut s'inscrire pour cette soirée-là, mais généralement pour visiter, pour profiter des animations, c'est un site internet peut-être, celui de l'abbaye ?
Alors tout à fait, il y a le site internet et puis ne pas hésiter à appeler le numéro de l'abbaye pour avoir toutes les informations.
Exactement, donc beaucoup de choses à voir, on le disait sur le secteur. Bah, écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine, nous, pour parler donc du swim run, pour parler de Randovienne, pour parler d'autres choses encore. Je vous dis merci. Merci Antoine Sellos d'être venu parmi nous.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt, au revoir.
Les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.